Il est 18h, c'est l'heure de Chronique démocratique sur Radio Campus Paris.
Salut, t'as 2 minutes ?
Quand on me demande, êtes-vous démocrate ?
C'est très frustrant, mais on fait comme on peut.
Démocratie représentative ne suffit plus.
What kind of democracy is that ?
Des mobilisations citoyennes ?
Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Ah, on doit parler de la démocratie, là ?
Tu peux fumer en même temps ou pas ? Ouais, c'est street, quoi. Je t'écoute.
Un jeudi sur 4 à 18h.
Politique et participation citoyenne. Bon allez, vous allez nous dire que c'est un sujet un peu facile, qu'on en parle depuis le premier épisode. Et c'est un peu vrai. Mais en même temps, renouveler la politique par les participations multiples des citoyennes et des citoyens, c'est un enjeu crucial. C'est un levier extraordinaire pour faire société, pour vivre ensemble et construire un monde où on se sent bien. Se sentir concerné par une décision, donner son avis, écouter d'autres opinions, comprendre d'autres réalités, trouver des solutions communes et s'impliquer pour faire émerger une idée, une proposition.
Politique et participation. Ça semble évident aux yeux d'un grand nombre de personnes et pourtant les élus résistent encore. Parfois les citoyens ne se sentent pas compétents, légitimes pour participer, faire de la politique. Parfois la défiance est généralisée à l'égard des élus, mais également à l'égard des citoyens. Et c'est un petit peu ce qu'on a ressenti lors du micro-trottoir qu'on a fait pour cet épisode. En allant à votre rencontre, on vous a d'abord demandé si la participation était ou pas un sujet plébiscité lors des campagnes politiques.
Non, je pense qu'ils n'en parlent pas suffisamment. C'est pas le sujet principal.
J'entends parler des politiques parler de cette participation citoyenne. Est-ce que c'est réglé ? J'ai pas trop l'impression. Il y en a effectivement certains, notamment à gauche, qui en parlent beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Je sais pas.
Certains voient dans la participation un moyen d'être élu.
Après, je suis pas experte en politique, mais j'ai l'impression que c'est un peu un jeu pour convaincre le plus d'électeurs possible. C'est pas forcément... c'est un métier, justement. C'est devenu un métier. Il y a beaucoup d'argent dans le jeu. Je sais pas si j'ai beaucoup confiance en la politique et en les hommes et femmes. Enfin, après, je peux pas non plus être cynique.
Ah, quand les hommes et les femmes politiques parlent de quelque chose, c'est toujours pour être élu. On est d'accord, hein ?
Et effectivement, la participation est un argument électoral. La question derrière est de savoir quelle participation est réellement mise en place, quelle place le citoyen a vraiment. Mais Yann vous en reparlera plus tard dans l'épisode. D'autres passants ont situé des démarches politiques qui faisaient appel à la participation, tout en rappelant l'échec qui s'ensuivait.
À une époque, Madame Royal avait fait ça, elle avait parlé de ça, elle avait mis la chose, en tout cas en public. C'est vieux déjà, mais...
Primaire populaire. Bon, je vois un peu ça comme... sauf que là, ça a foiré. Parce que justement, à la base, je trouvais qu'il y avait ce côté citoyen, quoi. J'ai vu ça comme un démarrage, quoi, ouais, voilà. Il n'y avait pas eu ça avant, quoi. Ouais.
Ça dépend comment on le fait, quoi. Si c'est comme pour les... Comment ils appelaient ça, là, le grand race...
Le grand débat ?
Oui, ou enfin, le truc où on fait débattre des gens qui s'impliquent, et puis après, en fait, ça n'aboutit à rien. Bon, c'est sûr que ça ne va pas encourager les gens.
Parce que là, j'entendais l'autre jour qu'il y avait justement... je ne sais plus pour quel sujet. Ah oui, c'est pour... je crois que c'est pour le sujet de l'euthanasie. Enfin, Macron qui a lancé ça, là, un truc de... C'est des blagues, quoi. C'est-à-dire que la décision, elle est déjà prise en amont, et il y a toute une illusion de faire participer l'opinion publique, mais c'est complètement faux.
Faire de la politique en prônant la participation citoyenne, ça n'est pas nouveau. Les difficultés, les blocages et les freins sont nombreux. C'est ce que vous nous avez souligné lors du micro-trottoir. Pourtant, les initiatives, les expérimentations continuent d'essaimer. Il reste beaucoup de convaincus du bien fondé d'amener le citoyen dans la sphère publique pour qu'il retrouve sa place. Alors parlons science politique. À quelle réalité sont confrontés les élus ? Comment se conjugue la participation citoyenne dans le champ politique ?
Peut-on faire de la politique à l'échelle nationale tout en faisant participer les citoyens ? Pourrait-il exister des mini-parlements locaux ? On a voulu avoir le point de vue d'un chercheur en sciences politiques. On a donc reçu Julien Talpin, sociologue et chargé de recherche au CNRS. Mais on a aussi pu suivre une expérimentation politique à Tours. Dans ce cadre, on a rencontré le député Charles Fournier, qui porte l'initiative, Clémence Leblanc, sa collaboratrice parlementaire, et Delphine, une citoyenne active et proche politiquement du député.
Allons-y, plongeons ensemble au cœur de la politique et des pratiques politiciennes. Nous allons essayer de mieux comprendre ce monde, mais aussi de découvrir des expérimentations qui sont proposées pour faire entrer pleinement et pérennement les citoyens dans la décision politique. Aujourd'hui, on cherche à voir ce que la participation fait à la politique.
Pas de langue de bois. On sait qu'il y a des obstacles majeurs qui empêchent les citoyens de s'intégrer durablement dans le champ politique.
Le premier, il tient aux résistances de ceux qui craignent la participation citoyenne. Parce qu'ils n'y ont pas intérêt, parce qu'ils n'y croient pas, voire même qu'ils lui vouent une forme de haine. Bien que les élus s'expriment rarement dessus de manière aussi frontale, ce sont pourtant les critiques les plus virulents de la participation, car ils y voient une forme de concurrence, voire une remise en cause de leur légitimité. C'est quelque chose que le chercheur Julien Talpin explique très bien.
Alors, effectivement, le phénomène est complexe, et donc on a quand même été assez frappé de voir les résistances à envisager un accueil beaucoup plus bienveillant à l'interpellation citoyenne, notamment sur une des idées phares qu'on défend, qui est sur la question du financement. Et quand on dit ça aux élus, il faudrait peut-être réfléchir à des formes plus autonomes, plus pluralistes de financement, de la vie associative et de la participation, etc. Et que c'est pas possible. Comme si, au fond, c'est un de leurs derniers précarés, c'est de pouvoir distribuer leurs subventions comme ils veulent. Y compris donc, chez des gens, listes citoyennes, plutôt à gauche, etc. Dire, par exemple, les subventions au monde associatif pourraient être décidées collectivement par des instances tirées au sort. D'un point de vue démocratique, c'est à mon sens insatisfaisant.
Cette résistance, on la constate aussi à travers tout un panel de récits et de mythes qui sont loin d'être récents et qui ont toujours structuré les discours. Cela oppose toujours le politique et le simple citoyen. On aurait d'un côté la compétence de l'élu face à l'incompétence du citoyen, la rationalité du décideur devant l'irresponsabilité de la populace, l'avant-garde éclairée contre la masse aliénée et apathique. Les figures de style ne manquant pas, la rhétorique anti-participation ne saurait tarir. L'élu sait, l'élu tranche, l'élu défend avant toute chose l'intérêt général. On en oublierait presque la réalité, les affaires. On en oublierait presque aussi que l'élu a des craintes des citoyens. Crainte de devoir rendre des comptes, crainte d'être débordé par la critique citoyenne, crainte d'être confronté à des dossiers qu'il ne maîtrise pas, en somme, crainte de perdre la face.
Retenons peut-être que les élus considèrent qu'ils tirent leur légitimité et leur pouvoir de l'élection. Or, la participation bouscule cette vision, ce principe. La participation rappelle que la légitimité de l'élu ne s'arrête pas au moment de l'élection, elle s'entretient tout au long du mandat. Les élus peuvent donc se sentir menacés et se réfugier derrière ces discours. Ce qui explique la résistance encore plus forte des élus quand il s'agit de traiter avec les citoyens, non pas à travers des dispositifs encadrés, mais avec des organisations autonomes de citoyens.
On a à la fois l'essor de dispositifs institués de démocratie participative à l'échelle locale, qui ne marchent pas toujours très bien. Moi qui travaille beaucoup sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on voit bien qu'avec les conseils citoyens, par exemple, les derniers nés, ces dispositifs sont quasiment en train de mourir faute de combattants. Mais en même temps, ces dispositifs existent. Dans le même temps, les formes plus auto-organisées de participation citoyenne, ascendante, qu'elles prennent une forme associative ou non, sont pas toujours vues d'un très bon œil, en fait, par les pouvoirs locaux, parce qu'elles viennent les interpeller, les critiquer, remettre en cause leurs décisions ou leur légitimité. Et dans un contexte à la fois de crise de la légitimité du personnel politique et du système représentatif, aussi de restriction des marges de manœuvre financières des collectivités locales, c'est sûr que ça, c'est une sorte de coup supplémentaire qui vient s'attaquer aux élus et aux collectivités locales. Et donc il y a des conflits de légitimité, pour le dire comme ça, avec ces formes auto-organisées de participation.
Au-delà de la crainte et des résistances du pouvoir, on a un deuxième défi de taille. Si on veut que la participation puisse vraiment intégrer le champ politique, il faut qu'elle y trouve sa place. Or, le problème, c'est finalement qu'il reste assez peu d'espace politique aux citoyens pour exister en tant que tel. C'est un problème lié au système politique tout entier et au fonctionnement quotidien des hommes et des femmes politiques. faut bien le dire, faire de la politique est une activité assez particulière. La nature même de leur fonction, c'est quand même de gouverner, c'est-à-dire d'exercer du pouvoir sur des gens. Et sur ce point-là, approcher le personnel politique intéresse beaucoup de gens. Nombre de groupes qui portent des intérêts divers et variés aimeraient pouvoir les approcher afin de gagner leur faveur et faire peser leurs intérêts dans la balance. Ces groupes d'intérêts sont centraux dans la vie politique.
Lorsque tu parles de groupes d'intérêts, tu fais référence à des ambassadeurs qataris avec des mallettes de billets ?
Non, enfin oui, ça en fait partie. Mais on a aussi des représentants d'entreprises, des associations de parents d'élèves, des organisations humanitaires, des représentants des cultes religieux, des clubs de sport ou encore des collectifs de simples citoyens. Et dans l'absolu, tout ça, ça n'est pas condamnable. Il est important que tous les intérêts puissent être entendus, portés et défendus dans l'arène politique. Ça permet de faire exister les différentes aspirations, les différentes causes que tous ces groupes défendent.
Oui, mais bon, faut pas non plus être naïf. Dans les faits, ces groupes n'ont pas les mêmes ressources pour accéder aux politiques. Il y a des phénomènes de rapport de force, d'entre-soi, de prestige qui influencent tout ça. Mais néanmoins, il est possible de se faire reconnaître par les politiques et d'entrer en relation avec eux.
Et les élus sont demandeurs. Ils cherchent à entrer en relation avec ces groupes dans la mesure où un politique a besoin de contact avec la société civile. Cela lui permet de trouver une légitimité pour son action politique, de se réclamer d'une proximité avec son électorat et d'éviter de prendre des décisions complètement déconnectées de la réalité. Dans leur travail quotidien, les élus ont besoin d'avoir en face d'eux des interlocuteurs, des représentants à qui s'adresser et avec qui travailler. Ces interlocuteurs sont centraux dans la vie des politiques, tant et si bien que ceux-ci sont complètement pris dans une toile de relations très complexes.
Attends, mais et les citoyens dans tout ça ? Nos dispositifs de participation, est-ce qu'on peut espérer qu'il leur reste une place dans l'agenda des politiques ? Et on n'a même pas parlé de toutes les dynamiques politiques, électorales, médiatiques. Est-ce qu'en réalité, vu notre système politique, les citoyens peuvent vraiment espérer se faire entendre par les femmes et les hommes politiques ?
Attention, certes, on pourrait se passer de bien des choses, mais on ne peut pas supprimer toutes ces interactions pour ne garder qu'une voie directe entre les politiques et les citoyens. Le rôle des syndicats, par exemple, c'est de constituer une force politique capable de représenter et défendre les intérêts des salariés.
On a souvent eu tendance à opposer participation ascendante et descendante. Moi, je crois que c'est la dynamique et la dialectique entre les deux, précisément, qui fait les processus de démocratisation. On a souvent joué, au fond, il y a des dispositifs de participation institués, donc on délégitime les mouvements associatifs qui participent autrement, par ailleurs, dans la rue, via des manifs, des occupations. Non, je crois qu'il faut réussir à faire une place à ce type de participation plus contestataire, et puis dans le même temps aussi que ces formes de participation contestataire se nourrissent des dispositifs délibératifs. Bref, donc jouer les deux ensemble, même si jusqu'à présent on a beaucoup de mal à le faire.
Dans le principe, il n'y a pas une incompatibilité entre participation et champ politique. Il est tout à fait possible de penser qu'il existe une place pour la démocratie participative, un espace politique à part entière. Plusieurs facteurs nous poussent à l'envisager.
D'abord, si la participation citoyenne pouvait être considérée comme un frein, elle peut tout aussi bien être comprise comme un levier d'action politique. C'est un vecteur important de transformation. Cela oblige une administration à rendre des comptes, à prendre des engagements concrets. Les citoyens sont un moyen de pression qu'un élu peut utiliser pour accélérer des processus politiques, pour contourner des procédures administratives lentes. En fait, cela sert l'impératif d'efficacité de l'action publique. Mais c'est aussi un levier pour administrer les affaires de la cité. La participation favorise la cohésion sociale, elle crée le dialogue, la rencontre, des liens de sociabilité. Elle permet aussi de créer un cadre pour les contestations, de réguler le débat, d'apaiser les conflits.
Mais la participation, c'est aussi et surtout un levier de légitimation politique. Les élus ont toujours besoin de se légitimer et de légitimer leurs actions auprès de la société. Sans cette ressource symbolique, n'importe quelle action peut souffrir d'une contestation forte. Cette légitimité, ils la tirent bien sûr de l'élection, mais ils peuvent aussi la tirer d'autres sources comme leur éthique politique, leurs compétences ou leur combat politique.
Une autre de ces sources de légitimité, c'est la proximité avec la société. Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Le politiste Rémi Lefebvre souligne que la proximité est un mot magique chez les politiques. Il va même jusqu'à parler de fétichisme de la proximité. Les raisons sont simples, ce sont les mêmes qui poussent les politiques à entretenir des relations avec des représentants d'intérêts, comme on l'a dit plus tôt. Mais si ce phénomène n'est pas récent, il semble être devenu vraiment incontournable aujourd'hui. Depuis plusieurs années, il y a une tendance majeure des élus à chercher la proximité à tout prix. Cela semble être devenu leur principal terrain pour gagner en légitimité. Et finalement, la démocratie participative s'insère très bien dans ce contexte. Julien Talpin nous explique pourquoi.
Alors que les partis politiques, pendant toute une partie du XXe siècle, assuraient ce travail d'intermédiation, on peut dire, entre les institutions et les citoyens, permettait de faire remonter des besoins, des idées, etc., et d'avoir cet ancrage social nécessaire. Voilà. Ces espaces d'intermédiation-là ont, si ce n'est disparu, ce serait un peu dur de dire ça, mais se sont très largement professionnalisés. Et donc, il y a cette question de l'ancrage, au fond, du personnel politique dans la société. Quelle relation on a avec les citoyens, mais aussi le monde associatif, syndical, etc. Et la démocratie participative vient, d'une certaine façon, si ce n'est remplacer, en tout cas jouer un peu ce rôle-là, permettre cette intermédiation et cet ancrage nécessaire aux représentants qui leur permettent de prendre le pouls de la société. Voilà. Et donc, ce qui explique aussi qu'une des formes principales qu'a pris la démocratie participative à l'échelle locale en particulier, c'est la démocratie de proximité. C'est au fond la participation citoyenne comme nouveau paradigme de la démocratie de proximité après l'effondrement des corps intermédiaires traditionnels.
La participation citoyenne est donc venue compenser l'affaiblissement des partis politiques. On peut dire que c'est une nouvelle manière pour les élus de jouer la carte de la proximité. On a ainsi pu voir la France insoumise, qui a pourtant un fonctionnement très centralisé autour de la figure charismatique.
La République, c'est moi !
Construire son programme de 2017 sur un mode participatif. Ils sont allés chercher des acteurs de la société civile, des citoyens, des chercheurs. L'image politique renvoyée par cette démarche s'aligne bien avec les attentes de leurs électeurs. Cette tendance prend différentes formes selon les partis, les couleurs politiques, les types de femmes et d'hommes politiques.
C'est moi qui suis parlementaire, poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte.
Mais il y a peu d'espace où on ne la retrouve pas.
Je crois quand même qu'il y a une prise de conscience assez forte aujourd'hui, et plus qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, moi quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, et ça me paraissait moins évident, qu'on ne peut plus faire de la politique comme avant, que la légitimité du personnel politique et du système politique est en jeu, et qu'un des leviers, c'est de transformer les règles du jeu et de laisser davantage de place à la participation citoyenne. Et de ce point de vue-là, moi je crois qu'il est quand même possible d'inventer des hybridations entre des formes de représentation qui vont rester, je crois, cardinales dans le système politique français et des formes de démocratie directe, de démocratie participative. Il y a des évolutions, y compris assez rapides. Moi, jamais je n'aurais pensé qu'on verrait une telle diffusion, y compris à l'échelle nationale, de la démocratie délibérative, à l'instar de la Convention citoyenne pour le climat, du grand débat malgré toutes ses limites, etc. Il s'est passé des trucs ces 5 dernières années qui ont toutes leurs limites et qui, en même temps, témoignent des transformations du jeu politique et du système représentatif. Donc, je crois qu'on va dans le bon sens et qu'il y a des choses qui se font. Évidemment, c'est compliqué, mais en même temps, il y a des trucs qui bougent.
Au nom de quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte !
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique.
Ah, la politique, le pouvoir partagé, les élus, la gouvernance, la co-construction. Ok, très bien. Maintenant qu'on sait que tout n'est pas verrouillé et Julien Talpin nous dit que c'est possible, que le contexte a évolué, alors, concrètement, comment on peut penser faire de la politique avec les citoyens ? On vous propose d'aller à l'Assemblée nationale voir ce qu'il est possible de faire.
Contrairement au maire, aux conseillers départementaux ou au président de la région, le député a un mandat national. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est élu, il ne représente pas ses électeurs mais l'ensemble du peuple français. Quand il vote une loi, il le fait en poursuivant la volonté générale. Alors, comment faire de la participation citoyenne quand on est député ? On est allé poser la question à Charles Fournier, qui est député de la première circonscription de l'Indre-et-Loire, qui lance avec son équipe et un groupe de citoyens un parlement de circonscription en janvier.
Je pense aujourd'hui à un fonctionnement démocratique qui est inadapté aux difficultés devant lesquelles nous sommes. Il faut faire face à des crises multiples, à des risques majeurs, à la fois aller vite et en même temps être capable d'avoir des décisions solides. Et on voit bien que les mécanismes de décision en chambre, je vais le dire comme ça pour faire un peu caricatural, sont inadaptés. C'est ça qui me nourrit depuis toujours, c'est que je pense qu'une décision efficace, c'est une décision qui a été construite avec celles et ceux qui en sont les destinataires. Donc partant de là, et dans toutes les fonctions que j'ai pu occuper, qu'il s'agisse d'ailleurs de fonctions politiques ou pas, préalablement dans le champ de l'éducation populaire, j'ai toujours eu la conviction que la participation citoyenne était un gage de la qualité des décisions et qu'elle est devenue de plus en plus nécessaire dans un moment où la démocratie dite représentative est devenue plutôt une sorte de démocratie de délégation. Le deuxième élément, mais qui découle du premier, c'est justement cette crise de confiance, ce sentiment d'institution inefficace, d'élus qui représentent mal, qui conduit à repenser les mécanismes de notre démocratie. Et voilà, moi, ça m'a conduit à parler de ce que j'appelle la démocratie permanente, plus que participative. On ne change pas le monde sans les gens. Voilà. Et on est au moment où il faut le changer beaucoup. Et on n'y arrivera que par des capacités à associer. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes, ce n'est pas tout le monde tout le temps. Ce n'est pas forcément toujours des processus massifs de participation, mais c'est comment on améliore la délibération.
Et pour améliorer la qualité de la délibération et enrichir son travail parlementaire, Charles Fournier lance un Parlement de circonscription qui se réunira le 28 janvier prochain pour la première fois. Cette initiative est le fruit de 5 mois de réflexion engagés avec des citoyens et des citoyennes, et c'est ce que nous explique Delphine qui en a fait partie.
Ce qui s'est passé, c'est que Charles Fournier a fait une très belle campagne ici dans la première circonscription à Tours. Sa proposition a été tout de suite de créer des groupes de travail pour les citoyens. Et ensuite, on s'est vu toutes les semaines, d'août à aujourd'hui, une quinzaine de personnes ont composé ce groupe de travail où on a dû déployer des documents pour commencer à réfléchir, pour commencer à développer le Parlement de circonscription.
Ce Parlement sera composé de 80 personnes. Pour les sélectionner, 3 collèges ont été formés.
Alors les 3 collèges, c'est purement de la cuisine interne pour arriver à toucher un maximum de gens. Pour qu'à la fin, nos 80 citoyens autour de la table, ce soit des citoyens qui aient des opinions divergentes, qui viennent d'endroits différents, qui aient des réalités de vie différentes.
Vous venez d'entendre Clémence Leblanc, collaboratrice parlementaire.
L'idée, c'était d'aller voir à la fois des forces politiques et citoyennes de gauche. C'est un député qui a été élu sous le titre NUPES. Donc on va chercher des forces politiques qui répondent... Enfin, qui sont sensibilisés en tout cas aux enjeux environnementaux, sociaux et démocratiques. Un autre collège qui sont la société civile, donc à la fois des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des chercheurs universitaires, des collectifs d'artistes, les syndicats. Et puis un troisième collège un peu plus large où c'est des citoyens, des citoyennes qui sont volontaires à venir participer et qui seront tirés au sort sous 4 critères. Pour tendre à une plus grande représentativité de la population, les 4 critères, c'est l'âge, le sexe, les lieux d'habitation, pour avoir une représentativité géographique aussi des lieux d'habitation, les niveaux de diplôme. Mais une fois en session, après, on basera notre travail sur 5 commissions thématiques qui reprennent les 5 piliers de notre charte, qui sont
lutter contre la pauvreté, élargir la démocratie, transformer l'économie, lutter contre les discriminations et évidemment pour une écologie équitable.
Vous l'aurez compris, 80 citoyens et citoyennes composeront le Parlement de circonscription. Ces collèges ont donc vocation à identifier et réunir 3 groupes, les forces politiques, les membres de la société civile et représenter de manière plus importante les citoyens. Évidemment, on s'est demandé avec Yann si pour cette première année d'expérimentation, les personnes volontaires pour faire partie de la démarche étaient d'abord des proches du député. De cette question découlait aussi l'enjeu d'aller chercher des publics éloignés de la politique, de la participation de manière générale.
Là, la majeure partie des gens, oui, sont plus ou moins proches de la démarche. Après, on ne peut pas dire que c'est l'intégralité non plus. On a quand même touché des personnes un peu plus éloignées. Le but sera d'aller chercher les personnes les plus éloignés de la parole politique dans l'espace public. Je pense que ça restera un défi durant l'intégralité du mandat.
Et oui, le Parlement de circonscription que Charles Fournier, Clémence Leblanc et Delphine, ainsi que le reste de leur équipe, développent, fait face à un défi majeur et récurrent dans le champ de la participation. Toucher la diversité de notre société, et c'est ce que nous rappelle le député.
Comment garantir la diversité dans la participation et comment gérer les temporalités de la participation? La diversité, c'est de s'assurer qu'on n'a pas des participants professionnels, voilà, ou ceux qui sont prêts à participer, des habitants professionnels, moi je les appelais comme ça. Comment on se garantit d'une représentativité qui n'est pas d'ailleurs forcément dans le profil des gens qui participent, mais dans la capacité des processus de participation à toucher la diversité de notre société.
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un parlement de circonscription ? Une fois ces 80 personnes sélectionnées, elles vont se retrouver pour 4 sessions de travail dans l'année. Une session équivaut à une journée de travail, un samedi entier.
Les objectifs du parlement de circonscription sont multiples. Ils ont été rédigés par le groupe de citoyens qui a planché sur son design. D'abord, permettre une meilleure compréhension du rôle du député et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Créer et développer un réseau de personnes partageant des valeurs communes et des opinions plurielles. Mettre en valeur des expertises locales sur des sujets parlementaires. Et améliorer les propositions politiques du député via l'apport de contributions du territoire. Ces objectifs que l'on a énoncés sont inscrits dans un règlement, une charte d'engagement que le député a pris vers ses concitoyens.
Et c'est là que les 5 commissions thématiques énoncées tout à l'heure par Delphine entrent en jeu. Pour répondre aux différents objectifs énoncés dans la charte, les commissions peuvent se saisir d'outils divers.
Et les personnes pourront solliciter des acteurs pour faire des auditions, par exemple. Il y a écrire une proposition de loi, c'est ce qu'on retient le plus facilement, mais il y en a plein d'autres en fait. Il y a écrire une question écrite au gouvernement, par exemple, pour des sujets plus précis, plus pointus. On peut écrire aussi une question orale, sans débat, au gouvernement, où c'est 6 minutes de prise de parole du député à l'Assemblée nationale le lundi.
Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Des nouvelles mesures...
On peut écrire un courrier à un ministre, ça c'est possible aussi. Ça c'est si on veut faire ressortir des sujets qui viennent de la circonscription et remonter à l'Assemblée nationale. Mais ça peut se faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire là, les députés ont ce qu'on appelle une feuille verte. On sait à l'avance sur quel texte de loi ils vont devoir se positionner pour l'année.
Les membres du Parlement de circonscription de Tours pourront donc s'approprier le travail d'un député. Ce dispositif est intéressant et ambitieux. Pour autant, et comme beaucoup de démarches, il se confronte à des freins. On en a parlé, à la diversité des profils des participants, mais aussi à différentes temporalités. 4 samedis par an, ça peut être un engagement fort et contraignant, surtout si on imagine que ces membres s'investissent sur leur temps personnel pour comprendre, décortiquer un sujet et se forger leur propre opinion. Et d'ailleurs, pour alléger cet engagement lors des sessions, une garde d'enfants est proposée par l'équipe du Parlement de circonscription. On peut aussi évoquer de manière très rapide les contraintes juridiques. La Constitution prohibe le mandat impératif, c'est-à-dire qu'un député ne peut s'engager à déléguer son pouvoir.
C'est non.
Alors forcément, la limite peut être fine lorsqu'on demande à ses citoyens de porter une proposition de loi, de choisir quel sujet ils veulent faire émerger à l'Assemblée. Mais peut-être qu'il y a un obstacle en particulier qui retient notre attention. C'est ce qu'ils ont appelé le coût de la démocratie.
La démocratie, ça a un prix aussi, et donc faire des démarches de participation citoyenne, ça a un prix. Et pour l'instant, le mandat de député tel qu'il est aujourd'hui n'est pas conçu pour avoir des démarches ambitieuses de démocratie participative sur les territoires.
Mon enveloppe pour avoir des collaborateurs parlementaires, elle est la même que tout le monde, évidemment. Et j'ai 3 collaborateurs parlementaires. Si je veux faire un parlement de manière sérieuse, il faudrait que j'ai une personne entière dédiée qu'à ça. Et ce qui n'est pas le cas. Moi, vous voyez, j'ai même restreint quand même, c'est 4 jours par an, 4 séances d'une journée par an où je prends en charge repas, frais de garde pour une égalité à la participation. Mais je n'aurai pas des garants que je pourrais payer. Je n'aurai pas... quelqu'un pour faire les comptes rendus. Vous voyez, toutes les limites qui sont posées, qui sont sur la capacité à faire.
Mais c'est aussi nos vies, de chacun d'entre nous n'est pas faite, n'est pas conçue pour faire de la démocratie en permanence. Notre vie est plutôt conçue pour faire confiance. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit quand même clairement un déficit de confiance actuellement. Et nous, on veut lutter contre. Et c'est difficile... de faire uniquement un 18-20 heures une fois de temps en temps pour faire de la démocratie, pour faire bouger les lignes. Donc on est obligé en fait de s'informer soi-même, de s'acheter des bouquins. En tout cas, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Mais en tout cas, le fait de faire partie d'un tout, le fait de mieux comprendre comment ça se joue, etc., il est précieux, clairement.
Évidemment, on leur souhaite de réussir cette initiative ambitieuse car aujourd'hui, la participation vit aussi à travers des expérimentations comme celle-ci. Et c'est pourquoi il est essentiel de mettre en commun, de faire des partages d'expériences pour que ces méthodes se diffusent et que tout le monde puisse se les approprier.
On le voit à travers l'Assemblée constituante chilienne, la proposition de constituer un parlement citoyen, l'Assemblée climatique bruxelloise, les méthodes se multiplient et se diffusent de plus en plus. Ces méthodes, ces démarches, soutiennent le principe de faire entrer le citoyen dans l'arène politique, de permettre aux citoyens collectivement de reprendre la main sur leur vie, sur leur destin. Participer permet cela, évidemment écouter Chronique démocratique aussi.
Merci de nous avoir écoutés, c'est la fin de ce 4e épisode de Chronique démocratique. Une émission créée et réalisée par Yann Bassereau et Marie Aubert en coproduction avec Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois à 18h. À bientôt!